France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Si quand je vous dis grands-parents, l'image qui vous vient, ce sont deux personnes fatiguées, assises sur un canapé qui tricote avec un chat sur les genoux, vous êtes loin du compte. Les grands-parents d'aujourd'hui partent en vacances hors saison pour envoyer des photos de plages désertes à leur famille, s'investissent dans des associations et sont parfois plus connectés que leurs petits-enfants. Plus âgés que les générations précédentes mais en meilleure santé, ils vivent une nouvelle jeunesse tout en découvrant les joies et les défis du rôle de grands-parents. Car ce rôle lui aussi a évolué, il faut parfois accepter que leurs enfants éduquent autrement, avec d'autres repères et surtout d'autres règles. Pas toujours facile de garder ses conseils pour soi. Et puis il y a la distance, quand les kilomètres s'en mêlent, il faut s'adapter, apprendre à rester présent à travers un écran, envoyer des messages vocaux ou créer un compte sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre le fil. Alors entre transmission, adaptation et modernité, qui sont les grands-parents d'aujourd'hui? On attend vos témoignages de grands-parents, d'enfants et de petits-enfants au 01 45 24 7000 ou vos messages sur l'appli Radio France. Nous sommes le mardi 5 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Il y a une image et un stéréotype des grands-parents. C'est toujours ceux chez qui on aime le plus vivre, chez qui on se plaît le plus.
Ils sont très gentils et c'est très bien d'avoir des grands-parents qui nous amènent nous promener.
Pour moi, mes grands-parents, c'est pour ainsi dire tout.
Je pouvais vraiment me confier à eux et puis c'était comme mes parents, quoi.
Ah oui, mes petits-enfants m'ont apporté énormément. J'ai évolué.
Et puis c'est là...
Au point de vue religion, au point de vue politique, même au point de vue vestimentaire. Parce que quand je ne m'habille pas comme ils le veulent, bah, ils me chahutent. Mais c'est eux qui nous font changer.
Et vous croyez que c'est bien de changer?
Oui, oui, oui. Ah oui, ça me permet de rester plus jeune.
Un micro-trottoir de 1977 sur les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants. En presque 50 ans, certaines choses ont changé, d'autres pas du tout. Nos invités ce matin étudient les grands-parents à différents niveaux, mais chacun d'entre eux a à cœur ce matin d'en donner une vision plus proche de la réalité que celle qui subsiste encore et surtout de mettre en lumière certaines problématiques que rencontrent les papis-mamies d'aujourd'hui. Bonjour Viviane Coves-Masfetti.
Bonjour.
Alors, je le précise, vous êtes en direct grâce à nos équipes d'ici Quimper. Vous êtes psychiatre de profession, Viviane, mais ce matin, on ne va pas s'intéresser à vos recherches sur notre santé mentale, mais aux témoignages que vous avez recueillis pour écrire cet ouvrage, Être grand-mère aujourd'hui, aux éditions Odile Jacob. Rapidement, combien de grand-mères vous avez écoutées pour nous livrer leurs témoignages ?
45.
Voilà, donc on peut se dire que c'est assez exhaustif. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Régine Florin.
Bonjour Yasmine.
Alors vous êtes au téléphone avec nous, vous n'avez pas pu venir dans nos studios, et pourquoi? Vous avez de bonnes raisons. Je crois que vous êtes de garde.
Si absolument, je fais mes travaux pratiques de grand-mère.
Voilà, vous êtes avec vos 5 petits-enfants. Vous êtes présidente de l'école des grands-parents européens qui existe depuis 30 ans. C'est évidemment pas une école au sens propre du terme, mais c'est plutôt une association pour les soutenir dans leur grand-parentalité. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes avec moi ce matin.
Ben oui.
Vous me tenez compagnie dans ce studio. Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages, mais le titre de votre dernier essai nous donne une idée de votre sujet de prédilection. Et si les vieux aussi sauvaient la planète, aux éditions Michalon. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste des questions donc liées au vieillissement. Depuis combien de temps vous vous intéressez aux seniors?
Oh là, vous n'étiez pas né.
J'ai 44 ans, on dirait pas. Hein.
Non,
ah,
on
voilà,
dirait
merci.
Vraiment pas. Oui, ça c'est... ben oui. Je pensais que vous étiez en stage, moi.
Non, alors, là. Vous allez voir que je suis très professionnelle.
Ah, mais ça en peut pas.
Donc, depuis combien de temps?
Voilà, j'ai soutenu ce sujet comme thèse en 1998.
D'accord.
Et donc, j'ai donc commencé en 95, donc voilà, ça commence à dater.
Donc, vous allez totalement pouvoir nous éclairer sur l'évolution de leur rôle. Pouvez-vous nous dire comment notre société, aujourd'hui, définit la grand-parentalité?
Elle a un tout petit peu de mal à la définir, parce qu'elle ne sait pas, en fin de compte, si c'est... On rend service, si c'est une relation humaine, familiale, si c'est une sacrée économie, si c'est un problème, si c'est un avantage.
Enfin, voilà. Je ne vois pas beaucoup d'aspects positifs, là.
Ah si, plein. Par exemple, on rappellera, hein, il y a dans l'année En moyenne, il y a 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents vers les petits-enfants. Donc le premier élément, c'est que, je dirais, heureusement qu'ils sont là.
Bien sûr.
Et le deuxième élément, cette notion de transmission. Non seulement ils sont là, mais finalement, c'est eux qui font le lien, la passerelle, entre hier et demain, quoi. Et on rappellera toujours, on ne peut pas se projeter dans le futur si on n'est pas un peu au courant de son passé. Et donc ça, c'est vraiment le rôle absolument majeur. Donc il y a un rôle très pratique, donc la société les voit comme un élément pratique, et les voit aussi, mais s'interrogent sur la question de la transmission, parce qu'une partie de notre société est un peu déconnectée de la notion de transmission. Donc voilà, on est entre ces deux éléments-là majeurs. Et puis il y a tout simplement, au milieu de tout ça, il y a un truc qui s'appelle l'amour.
Mais bah évidemment, ouais. Et ça devrait.
Comme on l'a entendu d'ailleurs en 1977, on l'entendrait aujourd'hui pareil.
Oui, c'est ça, ça n'a pas changé.
Bah non, et puis c'est même, et c'est peut-être même un amour encore plus choisi qu'auparavant. Et puis c'est aussi un amour qui dure plus longtemps, parce que l'espérance de vie ayant
augmenté.
Plus
longtemps qu'avant.
Plus longtemps qu'avant.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de grands-parents on compte aujourd'hui en France?
Alors, de mémoire, à peu près 15 millions.
Ce qui est énorme.
Ce qui est pas mal, ouais.
Alors, on peut noter qu'en 2023, 3,6% des femmes qui devenaient mères pour la première fois avaient 40 ans ou plus. Ça, c'est assez nouveau. Leurs parents accèdent donc à ce statut de grands-parents plus tard également. Qu'est-ce que ça change pour eux?
Alors, ça change beaucoup de choses. La première chose que ça change, c'est que avant, souvent, ils étaient en activité professionnelle. Ils peuvent l'être encore, mais de plus en plus, ce sont les grands-parents le sont au moment où ils sont à la retraite. La notion de retraite est un peu compliquée parce qu'on pense que c'est en retrait de la société. Mais pas du tout. C'est dans la société avoir des rôles énormes. Je rappelle que sans les retraités, le tissu social, le tissu associatif s'écroule complètement, par exemple. Mais ce sont aussi des gens, parfois, qui commencent à être un peu âgés, qui ont parfois leurs propres parents, ou s'ils sont encore en couple, l'un des deux est en difficulté. Donc, ils sont aussi parfois des aidants. Et puis, ils ont tout simplement construit aussi une vie. La grande différence avant, c'est quand vous arriviez à la retraite, globalement, c'était un peu la fin, vous attendiez que ça se passe. Aujourd'hui, les gens qui sont à la retraite, ils sont complètement dans la société. Donc le grand changement, c'est celui-là. C'est que finalement, grand-parent ne suffit pas à me définir. C'est pas parce que j'ai pris l'âge, c'est pas parce que je suis à la retraite, c'est pas parce que j'ai des enfants qui ont décidé de faire des enfants, que je vais seulement être, seulement me définir comme grand-parent. Une dame m'avait dit un jour dans une enquête, c'est pas marqué mamie à plein temps sur mon front. Hein, donc il y a vraiment cette notion-là qui est très très forte. J'ai plein de choses, et c'est aussi parce que j'ai plein de choses, que j'apporte aussi plus, sans doute, qu'à mes petits-enfants qu'auparavant.
Ça bénéficie à leur rôle et à leur relation avec leurs petits-enfants. Régine Florin, qui est avec nous, en tant que présidente de l'école des grands-parents européens, vous connaissez bien cette génération. Peut-être que vous pouvez venir compléter ce que vient de dire Serge Guérin. Qu'est-ce qu'elle plus évolué par rapport à leurs aînés, selon vous?
Alors d'abord, merci au progrès de la médecine. Effectivement, Serge a insisté sur ça. Et c'est tout à fait clair que partant à la retraite à 60 ans, 64 ans, vous pouvez encore espérer voir vos petits-enfants. Un petit enfant qui naît aujourd'hui peut espérer avoir ses grands-parents 20 à 30 ans.
Oui.
Donc c'est quand même extraordinaire, ça n'existait pas. Je rajoute, Serge l'a évoqué très subrepticement, mais l'histoire de la génération pivot, c'est tout à fait inédit. Inédit. C'est-à-dire qu'on est encore quand même 27% à avoir un aîné en charge. Moi, j'ai des grands-parents à l'EGPE qui ont 75-76 ans et qui brusquement repartent parce qu'il faut aller s'occuper de leur mère ou de leur père qui est en état de dépendance.
Ça, c'était pas le cas avant?
Pas du tout. Quand vous partiez à la retraite dans les années 70-80, c'était très rare d'avoir quelqu'un qui arrivait vers les 95, 100 ans, 103 ans. La dernière fois, j'ai une amie de 76 ans qui arrive épuisée en me disant « Je viens de déménager mon père, il vient enfin de passer en résidence foyer, il a 103 ans. »
Ouais. Ah oui,
d'accord,
oui, bien sûr.
Donc c'est des choses qu'on n'existait pas. Et puis alors, il y a autre chose qu'il va falloir soulever, et ça vient de retomber, ça tombe sans arrêt en ce moment. Nous avons beaucoup de retraités. On dit quand même actuellement qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, dont les trois quarts seront grands-parents. Uniquement les trois quarts, parce que 26% d'une génération ne sera pas grand-parent. Et nous sommes de plus en plus confrontés à des retraités qui disent ben, « nous ne deviendrons pas grands-parents, nos enfants ne veulent pas d'enfants ».
Ah oui, ça, effectivement, c'est. On va
c'est
en parler.
Hein.
On va en parler juste après de ces relations des grands-parents avec avec leurs enfants qui deviennent parents ou pas. On en parlera après. Est-ce que vous savez si pour la plupart les grands-parents sont en demande de prendre en charge leurs petits-enfants?
Alors oui, étant donné qu'ils sont en forme, ils sont en demande de jouer un rôle de grands-parents. À l'école des grands-parents européens, on tient une ligne, hein, allo grands-parents, vous allez en parler après. Et dans cette ligne allo grands-parents, nous avons même des témoignages du genre « Quand j'étais jeune retraité, je me suis dit, bon, m'occuper de mes petits-enfants, bon, j'ai autre chose à faire, j'ai encore une vie, etc. » Et puis maintenant que j'ai atteint un âge où je suis un peu en dépendance, je suis un peu plus coincée chez moi, j'ai 87 ans, ben pourquoi mes petits-enfants ne viennent-ils pas me voir ? Pourquoi ne viennent-ils pas vous voir, monsieur ? Mais parce que vous n'avez rien tissé pendant l'âge d'or de la grand-parentalité.
Ah ah, l'âge d'or de la grand-parentalité.
À tous les jeunes retraités. C'est peut-être fatigant, la moyenne est de 22 jours de vacances par jour et par petit-enfant. Moi, je fais un mois et demi, là, hein. Bon, 585 € par petit-enfant et par an, 650 000 emplois à temps complet. Les grands-parents assurent beaucoup les mercredis. Ils sont moins dans le régulier de tous les soirs à la sortie de l'école. Quoique, j'en ai vu. Et j'ai même vu des arrière-grands-parents le faire. C'est inouï.
Alors moi, j'ai un chiffre. On estime aujourd'hui, selon l'Ipsos, à 30% le nombre d'enfants gardés par leurs grands-parents pendant les vacances d'été. On est en plein de temps. Régine, elle-même, garde ses petits-enfants actuellement. Là, je vais m'adresser à Viviane Covas-Masfetti. Vous avez recueilli 45 témoignages de grand-mères pour écrire votre livre. D'après ces témoignages, est-ce qu'ils sont davantage sollicités qu'on peut être leurs parents, par exemple, les grands-mères que vous avez écoutées ?
Je pense que les choses sont un peu compliquées et en fait, ce qui m'a frappée, c'est la grande variabilité des situations. Moi, les grands-mères que j'ai interviewées ne sont pas forcément représentatives de la population française.
En termes de pouvoir d'achat, vous voulez dire ?
Pas que. Pas forcément d'ailleurs, mais en termes de vie, on va dire de vie active précédente. Toutes les grand-mères d'aujourd'hui n'ont pas eu des vies actives très remplies, n'ont pas été des cadres plus ou moins supérieurs, des médecins, des architectes. Enfin voilà, c'est donc un profil un petit peu particulier, mais pas que. Le médecin généraliste que j'ai interviewé, lui voyait des grand-mères, on va dire, beaucoup plus classique, mais je pense que il faut être très prudent quand on parle des grands-mères en général, parce que c'est quand même un kaléidoscope. Il y a vraiment des situations extrêmement différentes qu'il faut pas généraliser, parce que chaque situation représente un petit pourcentage de grands-mères. Il existe bien évidemment, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête.
De toute façon, elles ont toutes leur unicité, bien évidemment. Chaque relation est différente, chaque cas est particulier, mais est-ce que d'après vous, l'impact des grands-parents sur la transmission des valeurs, de l'histoire familiale, voire de l'identité, reste toujours très présent ?
Je pense que c'est une bataille. Je pense que les grands-parents ont envie de transmettre, ça ne se discute pas. Mais est-ce que les enfants ont envie, les petits-enfants, je parle, ont envie d'écouter cette transmission ? Je pense que les petits-enfants d'aujourd'hui sont très remplis par d'autres moyens de communication, d'autres façons de s'informer, et que c'est assez difficile pour les grands-parents de se faire une place pour entendre une transmission de choses qui les intéressent pas forcément. Et c'est vraiment quelque chose de subtil, de difficile à mettre en place. Et moi, ce que j'ai plutôt recueilli, c'est des témoignages un petit peu désabusés, on va dire, de grands-parents qui aimeraient bien transmettre, mais ils n'ont pas beaucoup de public.
Mais ils sont pas très très écoutés.
Ouais, c'est ça.
Grand bien vous fasse.
Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ?
Non.
Je peux vous aider à traverser la rue ?
Non.
Je peux vous aider à traverser votre couloir ?
Non.
Mais il faut bien que vous aidez à traverser quelque chose.
Non, merci, je n'ai besoin de rien.
Sur France Inter.
Aïe.
Voilà, c'est dit, on n'a besoin de rien. La place des grands-parents au sein de la famille a longtemps été considérée comme celle des anciens, au sens noble du terme, symbole de sagesse, de savoir. Il est même écrit dans la Bible « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard ». Serge Guérin, il semble qu'aujourd'hui ce soit un peu différent.
Oui, un petit peu quand même. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'avant ça a été vraiment si différent que ça. Déjà, il y a une réalité toute bête, c'est que on parlait d'espérance de vie. Il est un temps où finalement les grands-parents étaient quasiment jamais grands-parents parce qu'ils mouraient avant. Il est un temps aussi où quand le Front populaire a inventé en 1936 les congés payés, il y a plein de parents qui pour la première fois ont présenté, ils ont pris le train et ils ont présenté à leurs parents leurs enfants. Qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ouais, ouais. Voilà, donc cette réalité-là, elle est aussi très forte. Bien sûr, on a l'image qui existait aussi. On vivait à la campagne et ainsi de suite, et tout le monde vivait ensemble. Et d'ailleurs, sans du tout choisir de vivre ensemble, d'ailleurs. C'était comme ça. Voilà. Mais les personnes âgées partait assez vite. Je rappelle qu'en 1950, l'espérance de vie était autour de 68 ans. Hein, donc voilà, donc les réalités étaient très très différentes.
On faisait des enfants avant, puisque je pense que l'âge du premier enfant à cette époque-là, c'était plutôt 23-24 ans.
Même plus tôt.
Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt 28-29 ans.
Même 31, oui. Ça se décale, donc tout ça arrive en effet plus tard. Et puis les gens ne sont évidemment pas les mêmes. Mais surtout, ce qui est intéressant, justement, c'est cette notion de choix. Alors, il y a aussi des grands-parents qui disent « Mes enfants, moi j'avais décidé de faire des enfants ». Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins d'enfants qui décident de faire des enfants, mais j'avais décidé de faire des enfants, c'est pas moi qui ai décidé de faire des petits-enfants.
Bien sûr. Voilà. Donc... Alors justement, Viviane Coves-Masfetti, s'il y a un élément central dans la vie des grands-parents, c'est bien leurs enfants, puisque la première chose que les grands-parents ne maîtrisent pas, c'est déjà quand ils vont le devenir ou pas.
Bien évidemment.
Donc ça change la dynamique, on va dire.
Est-ce que ça change la dynamique? Je pense que quand même, c'est un peu compliqué cette histoire d'avant-après, parce que tout dépend où est-ce qu'on situe l'avant, évidemment.
Même dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui décident de ne pas faire famille.
Oui, alors quand on dit de plus en plus, voilà, je ne sais pas si avant ils le disaient officiellement, ça se mesurait, et aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup, après ça reste quand même un phénomène minoritaire. Mm-hmm. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu terrifiant pour les grands-parents qui disent, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas... d'enfants, ceci dit, entre ce qu'ils disent, entre ce qui se passe pour de vrai. Il y a toujours eu des enfants qui ne faisaient pas d'enfants. D'ailleurs, avant, on trouvait ça très utile. Il y avait quelqu'un qui faisait pas d'enfants et qui allait s'occuper de ses parents. Il y a toujours eu, entre guillemets, la vieille fille qui, elle, se mariait pas. Enfin, ça vient pas d'arriver qu'on n'ait pas d'enfant. C'est juste que maintenant, c'est vu sous un autre angle, c'est valorisé sous un autre angle. Il y a tout aussi cette histoire d'éco-anxiété. Donc, on attribue ça au fait que le monde va se détruire et que ça donne pas envie de faire des enfants. Mais je ne sais pas, c'est dit maintenant de cette façon-là, mais ça a quand même toujours existé.
Dont c'est valorisé qui est différente. Alors, d'après les témoignages que vous avez recueillis, je rappelle que vous en avez recueilli 45, quel est le rôle des parents dans la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants?
Alors, c'est sans eux, rien ne peut se faire. Si les parents ne sont pas, n'ont pas envie qu'il y ait cette relation, c'est très très difficile pour les grands-parents et on le voit, dès que commence à y avoir une brouille entre les parents et les enfants, ça devient très difficile pour les grands-parents et peut-être on aura d'ailleurs des témoignages là-dessus. Et ça se joue, enfin, il faut réaliser les enfants du père, les enfants de la mère, c'est pas tout à fait pareil.
Et vous dites que...
Ça reste quand même les enfants de la fille, on est plus proche facilement des enfants de la fille que des enfants du fils, parce que le fils a lui-même, bien entendu, une femme qui s'occupe des enfants, même si aujourd'hui, les pères s'occupent beaucoup plus des enfants que dans la génération d'avant, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une nette différence entre les deux, bien qu'il y a des tas de grand-mères qui adorent leur belle-fille et avec qui ça se passe extrêmement bien.
Oui, heureusement.
Bien sûr.
Dites que les parents, en fait, sont une sorte de filtre entre les grands-parents et les petits-enfants.
Totalement. Et je pense que c'est quelque chose que les gens ont dû expérimenter personnellement, qui est que la relation avec ses propres enfants a beaucoup à voir avec la relation qu'on a avec les petits-enfants. Et c'est eux qui vont faire cette facilitation. La plupart du temps, bien évidemment, c'est ce qu'ils souhaitent. Enfin, c'est la norme et que les enfants souhaitent que les grands-parents aient des relations avec leurs enfants.
Heureusement.
Voilà, absolument. c'est la voie naturelle, on va dire.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que quand il y a de la conflictualité, quand on a perdu le contact, c'est assez compliqué. Après, il y a aussi les circonstances de la vie. Vous allez, beaucoup d'enfants aujourd'hui bougent, vous allez vivre en Australie, et moi j'ai une grand-mère dont l'unique petite fille vit en Australie. Je suis d'ailleurs absolument sidérée de comment elle est quand même arrivée à gérer cette relation à distance.
Et oui, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, les grands-parents aujourd'hui, ils sont face à de nombreux défis, dont celui de s'adapter parfois à la distance. Alors, Régine Florin, votre association, l'École des grands-parents européens, revendique aujourd'hui de jouer un rôle de sorte de porte-parole des grands-parents de France. Lorsque vous leur parlez du rôle, de leur rôle, vous parlez d'un rôle d'humilité, beaucoup d'humilité. Expliquez-nous.
Nous ne devenons grands-parents que par le bon vouloir de nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont l'autorité suprême sur leurs propres enfants. Mmh. Et quand on les reçoit...
Ne dites pas
ensemble,
ça dans ton grave comme ça.
Mais je le dis très important, parce que ça, il faut que les grands-parents le comprennent.
Ah oui.
Tout de suite. Dès qu'ils deviennent grands-parents, il faut qu'ils comprennent qu'on est devenus grands-parents par le bon vouloir de nos enfants. Il faut leur dire merci.
Ah voilà, d'accord. Okay,
il faut
comprends.
Les remercier de nous avoir rendus grands-parents. Il faut les remercier de nous amener leurs petits-enfants. Il faut... J'entendais Viviane parler de lointaine. Nous avons des petits-enfants au Canada.
Oui.
Il y en a une qui est née pendant le Covid. On a développé des trésors de créativité pour maintenir le contact avec des marionnettes, des jeux, des tout ça. Et quand elle est arrivée, elle allait avoir 2 ans, elle nous a reconnus parce qu'elle nous avait vus en visage.
Merci
et la deuxième
technologie.
Qui est arrivée là, elle vient de repartir. Tout de suite, le lendemain, c'était mamie, elle m'appelait, ben, c'est tout, elle est dans mes bras, elle était câlinée contre moi. Pourquoi ? Parce que nos enfants nous avaient rendus grands-parents. Ouais. Ils avaient mis des photos de nous, c'est eux qui parlent de nous. Et c'est pour ça qu'à l'EGPE, immédiatement, quand ça a été créé il y a 30 ans, l'année suivante, l'ADN de l'EGPE, c'est la ligne Allo Grands-Parents. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des grands-parents qui ne voyaient pas leurs petits-enfants. Pourquoi ? Mais parce que quand il y a des tensions entre les parents et leurs propres enfants, ça retentit obligatoirement sur les petits-enfants.
Ben ça rejoint ce que disait tout à l'heure Viviane, qui parlait d'une sorte de filtre. Alors, une des membres de votre association vous a parlé de la règle des 3C. Est-ce que vous pouvez la partager avec nous ?
Oh, la règle des 3C, concentration, calme et contrôle de soi, quand
ça,
on reçoit.
Voilà, ça, ce qui est nécessaire, du coup, aux grands-parents quand ils accueillent leurs petits-enfants. Ils sont nombreux, hein, les grands-parents, qui, encore cet été, vont partager des moments avec leurs petits-enfants.
Les petits-enfants les appellent affectueusement « bonne maman » et « bon papa ». Et comme à chaque vacances, les grands-parents les accueillent avec bonheur dans leur maison de bord de mer.
Tu les goûtes ? Et voilà, après on va le mettre sur le feu dans la casserole. Alors. De les voir faire, de les voir évoluer, puis de voir des petits dessins de tout petits, et puis maintenant de voir leurs dessins qui s'affinent et tout ça, c'est extraordinaire quoi.
À 67 et 69 ans, Claire et Jean-Paul Cross ont toujours été partants pour garder leurs petits-enfants.
Ça y est, bon papa.
Pour eux, ce n'est pas une contrainte, bien au contraire, d'autant que les parents leur font totalement confiance.
Ils ont leur mot à dire, mais ils nous laissent très 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 libres. Je crois que ça, c'est génial, parce qu'ils nous disent, quand ils sont avec vous, c'est vous qui décidez.
Alors, dans les 3C qui évoquaient tout à l'heure Régine, on aurait pu rajouter ce C de la confiance. C'était un extrait du JT de France 3 en été 2022. On a au téléphone ce matin Michel qui nous appelle, qui est aussi grand-parent et qui veut témoigner. Bonjour Michel. Michel, on vous reprendra peut-être tout à l'heure parce que là, peut-être que vous êtes en voiture en train d'accompagner votre petit-fils ou votre petite-fille au judo et on est avec vous, on vous embrasse. Viviane Covas-Masmetti, dans votre livre, une des grands-mères qui témoigne, parle de la loi du sol. Expliquez-nous.
Alors voilà. Forcément, les grands-parents n'ont pas forcément les mêmes principes éducatifs que les parents. Quand les enfants sont avec les grands-parents, c'est un peu votre témoignage, enfin dans le meilleur des cas, qui est que les parents disent on te fait confiance, donc c'est toi qui vas faire la loi. Quand les enfants sont avec les parents, bon bah ça ne se discute pas, c'est les parents qui font la loi. Le problème commence quand les enfants viennent avec les petits-enfants viennent avec leurs parents. Donc là, on est en phase de, on va dire, de régulation et se pose la question de quelle régulation va-t-on utiliser. Donc j'ai une des grand-mères qui dit, moi, c'est la loi du sol. Quand on est chez moi, on fait comme c'est chez moi. Et quand les enfants sont avec leurs grands-parents, on fait comme leurs grands-parents disent. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que les enfants s'adaptent très bien. ils savent que il y a des choses qui peuvent être différentes. Ça peut même être, je trouve, très éducatif d'ailleurs, de réaliser qu'il y a des gens qui pensent d'une façon, il y a des gens qui pensent d'une autre, et la différence, elle s'apprend et elle se conçoit. Alors évidemment, faut pas que ce soit trop conflictuel, parce que là, ça devient difficile. Ceci dit, de tous les témoignages de grand-mère que j'ai, évidemment, le rêve des grands-parents, c'est quand même d'avoir les enfants sans leurs propres parents.
Les petits-enfants sans leurs parents, voilà,
et
c'est
oui,
mieux.
Et oui, parce que là, si on veut commencer à avoir des relations affectives, des relations personnelles, des relations avec les parents, là, c'est une concurrence, j'ai presque envie de dire, déloyale. Non seulement les enfants sont en général plus difficiles à gérer, et là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus quand il y a les parents, mais en plus, cette relation unique entre le parent, entre le petit enfant et ses grands-parents, ne peut se faire que s'ils sont seuls à seuls.
Je comprends mieux, du coup, mes propres parents, parce que moi aussi, je suis maman, et je crois qu'ils préfèrent définitivement quand je ne suis pas là, quoi. Mais bon, voilà, il va falloir que je l'accepte. On en est là.
Oui, alors si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est d'ailleurs une difficulté.
Oui.
C'est qu'aujourd'hui, les enfants sont très investis, mm-hmm. et que, en fait, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on les fait plutôt plus tard, on en fait moins, donc ils sont super investis, et que pour les parents, laisser les enfants, c'est compliqué. Et peut-être on va parler tout à l'heure des cas de divorce où chacun a la moitié des vacances.
Oui.
Donc laisser ses enfants aux grands-parents, ça devient très très rare.
Oui, alors que c'est franchement une chance et pour eux qui peuvent souffler et pour les petits-enfants qui partagent avec leurs grands-parents.
Grand bien vous fasse.
Moi, ma grand-mère, elle m'a appris à jardiner, à faire la cuisine.
Le serpent, pourquoi elle crie ? C'est comme ça que j'appelle ma mitrailleuse.
Sur France Inter.
Alors, peu importe leur âge, les grands-parents sont souvent réjouis à l'idée de passer du temps avec leurs petits-enfants. De leur propre aveu, c'est la place idéale. Ils ont les câlins, mais pas la pression de leur éducation. Ce thème aujourd'hui vous fait réagir. Je vais lire quand même plusieurs messages qu'on a reçus. Celui de Martine, qui a 14 petits-enfants. Elle dit « J'ai rencontré mon compagnon tardivement et on avait déjà chacun des enfants. Maintenant, nous avons eu 14 petits-enfants à nous deux et c'est 14 fois plus de bonheur. Parfois un peu lourd. Nous les prenons par groupe de 2, 3, 6, 8. Pas trop longtemps, à plus de 70 ans, c'est parfois un peu fatigant. Bravo à vous, Martine, parce que c'est effectivement, on vous comprend. Nous, déjà, en tant que parents, on a du mal. Donc, vous, 14 à la fois. Chapeau. On a aussi un message de Martine qui dit « Nous sommes grands-parents de 6 petits-enfants et bientôt 7 en septembre. La présence de ces petits-enfants est un bain de jouvence à 68 et 69 ans. Grâce à eux, nous avons envie d'évoluer, de les comprendre, de leur transmettre des valeurs, mais aussi d'apprendre de leur part. C'est une relation qui n'est pas, évidemment, à sens unique. Serge Guérin, en tant que sociologue, est-ce que vous diriez que ces grands-parents, ils représentent toujours une sorte de refuge pour leurs petits-enfants ?
Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant dans les témoignages, c'est cette notion de réciprocité. C'est-à-dire que je donne, mais je reçois.
Oui.
C'est la culture du don. Hein. Mais par exemple, on a parlé beaucoup de technologie. Par exemple, on a tous entendu des gens, je sais pas moi, 70 ans, en disant « Oh là là, heureusement que ma petite fille, en deux minutes, elle m'a réparé mon téléphone. » Et on se sent pas du tout ridicule. On est admiratif en disant ça. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est que l'enfant peut aussi apprendre au plus grand. Quoi. Donc, et inversement, évidemment. Donc il y a vraiment cet élément-là qui est très très fort, donc, et qui décuple le plaisir et qui, d'une certaine manière, renforce le lien et la responsabilité. Je peux aussi, très jeune, expliquer des choses à mes grands-parents, par exemple. Donc là, il se passe quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à ça. Et de ce point de vue-là, les technologies, évidemment, ont beaucoup été utiles. Mais ça peut être autre chose. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit « Oh bah, on est parti à la retraite avec mes copines, on a décidé de faire un grand voyage.
Mm-hmm. »
Et mon petit-fils qui avait fait Erasmus, je lui ai demandé, alors c'était... De mémoire, c'était en Suède. Je lui ai demandé ses adresses. Mmh. Je ne sais pas si le petit-fils a donné toutes ses adresses. Mais en tout cas, il a donné des adresses. C'était
voilà.
Sympa, parce que jamais, avant, on aurait pu imaginer des gens qui décident. Je rappelle que les gens plus âgés prennent beaucoup moins l'avion que les plus jeunes, par exemple.
Ouais.
Tu sais, quand on parle d'écologie. Mmh. Voilà, donc, mais là, ils décident de faire un grand voyage. Et ils vont se tourner vers qui ? Vers les petits-enfants qui ont des connaissances par rapport à ça. Vous voyez, donc il y a vraiment des nouveautés aussi dans l'échange.
C'est une dynamique qui va vraiment dans les deux sens. Alors, vous parlez de nouveautés. La nouvelle génération de grands-parents, elle se démarque de celle d'avant, notamment par une meilleure santé, on l'a dit. Et cette meilleure santé, elle offre de nouvelles perspectives de vie.
Chaque hiver, ils sont des dizaines de milliers dans leur camping-car à rouler en direction du soleil.
Ma retraite a été de bonheur.
je ne me voyais pas vieillir comme ça au coin du feu. Hein.
Disons qu'on a pris une claque, on s'est dit oh là là, on devient vieux d'un coup là. On n'a plus d'activité, les enfants sont partis.
Les enfants sont partis, oui.
On est là tous les deux, on va pas commencer à faire des mots croisés en attendant qu'on passe arme à gauche quand même. Donc on s'est dit il faut trouver une solution, voilà.
La retraite, c'est une deuxième vie.
Ah oui, ah ouais, ouais, c'est ça le bonheur. On mange bien à l'heure qu'on veut, on se lève, on se couche, on prend notre bain, on fait ce qu'on veut, comme on veut.
Nous sommes des jeunes vieux.
Je me rattrape pas, je profite. Je sens ni d'excuses, ni de... Je profite, je fonce, je vais dedans et j'espère que ça va durer. Tant que j'ai la santé, tout va bien.
Et oui, c'est ça le bonheur. Ils veulent aussi, ses grands-parents, profiter de cette nouvelle vie.
J'avais inventé il y a longtemps le néologisme de Boubose, Boomers Bohème, en prenant en compte que 70% des acheteurs de camping-cars étaient des gens qui étaient à la retraite. Donc il y avait cette notion-là de j'ai envie de vivre ma vie différemment. Ça ne veut pas dire que je la vis que pour moi, mais j'ai envie de penser à moi et j'ai envie de la construire autrement. Encore une fois, quand je la construis autrement, ça peut être voyager ainsi de suite. Enfin, majoritairement, les gens, c'est aussi je vis là où je suis et puis je suis dans le tissu associatif. Parfois, j'ai un parent à aider très fortement. Parfois, j'ai des enfants à aider et ainsi de suite. Et donc, je me sens responsable, mais en même temps, je me sens aussi en capacité finalement de plus choisir. Je me sens plus libre et je décide aussi de choisir ma vie et d'être là aussi plus libre. Mais en même temps, je suis, je dirais, libre et responsable ou responsable et libre. J'en sais rien. En tout cas, ça se passe entre les deux. Et puis, il y a aussi cette notion de je m'occupe, j'accompagne, je suis présent quand il y a des tout petits qui sont là, mais je suis aussi présent, ça peut être différent quand ils deviennent ados par exemple, quand ils commencent à rentrer dans la grande vie. Voilà, et donc moi-même j'ai des cycles de vie d'une certaine manière et j'avance dans la vie et ça me conduit aussi à réfléchir à moi-même, mais ça conduit aussi, si tout se passe bien, aux petits-enfants à réfléchir à eux-mêmes et à réfléchir aussi à ce lien, à cette transmission. Ah bah tiens, c'était comme ça. Ah oui, on pouvait vivre sans téléphone à l'époque. Ah oui, tout n'était pas en noir et blanc. Que sais-je encore ? C'est-à-dire qu'on apprend aussi et du coup, on relativise aussi beaucoup plus que si on est juste, à un moment donné, ici et maintenant, sans se préoccuper de ce qu'il y avait avant.
Régine Florin, j'imagine que ce que vous avez entendu et ce qu'a dit Serge peut vous faire réagir aussi. C'est-à-dire que les grands-parents, aujourd'hui, ils ont quand même envie de choisir le moment où ils sont avec leurs petits-enfants. Il n'y a pas que ça.
Tout ça, c'est une question de dialogue avec nos enfants. Ils s'arrangent entre eux. Nous, on en a 8, entre 20 et 1 an, vous voyez. Et véritablement, nos 3 enfants discutent essentiellement pendant les petites vacances scolaires, la Toussaint, les petites vacances scolaires où là, ils travaillent. Comment est-ce qu'on garde et on les dépanne en gardant les petits-enfants. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important. On a entendu beaucoup le mot « transmission ». Pour avoir justement 8 petits-enfants, et j'en parlais avec la dernière, une qui va avoir bientôt 18 ans, nous ne transmettons pas ce qu'on dit, nous transmettons ce qu'on est. Mm-hmm. Et elle commençait à me raconter tous ces souvenirs d'enfance qu'elle avait avec nous, alors qu'elle a maintenant 18 ans. Donc je me suis vraiment rendu compte que ça ne sert à rien de... Bon, on a raconté beaucoup de choses, comment étaient leurs parents, comment ceci, mais nous transmettons ce que nous sommes. Donc, j'envoie un message aux grands-parents. Soyez heureux, aimez la vie, soyez enthousiastes avec vos petits-enfants et tout ça, et ça passera sans avoir besoin de le dire.
Ce qui compte, c'est évidemment le partage, oui. Partager mais des moments ensemble. Alors, il se trouve qu'on a beaucoup de messages, je vous l'ai dit ce matin. On en a reçu un de Guy. Guy n'est pas content. Il dit, on parle des grands-mères dans votre émission et les grands-pères. Si, si, on parle de vous parce qu'on dit les grands-parents. Vous faites partie des grands-parents, les grands-pères. Mais évidemment, on s'intéresse à vous. Et d'ailleurs, on a Dimitri, 62 ans, en ligne avec nous, qui est grand-père. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ce matin ?
Oh ben, je voulais apporter un témoignage, puisque là, je suis sur la route, je viens de raccompagner mon petit-fils chez lui.
Voilà.
Il a passé une semaine chez nous, mon épouse et moi, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et il habite à Grenoble, donc je l'ai ramené chez ses parents hier soir, et là, je rentre à la maison. Donc, c'est un témoignage. Je suis très heureux d'être grand-père. Enfin, nous sommes très heureux d'être grands-parents. Mm-hmm. Et donc, cette semaine s'est très bien passée. Et je crois que les enfants étaient contents aussi qu'on s'occupe de leur enfant, de leur fils.
Dimitri, est-ce que vous connaissez le mot chicouf ?
Non.
Ok, vous allez me dire si vous faites partie de ceux-là. C'est chic, ils arrivent ou ils y repartent ?
Ah oui, oui, c'est, d'accord. Je comprends. Oui, je comprends le concept, parce que effectivement, c'est quand même
un chamboulement
d'attention.
Eh oui.
Là, en l'occurrence, on a fait ça, entre guillemets, en connaissance de cause, puisque nos enfants étaient avec notre petit-fils à la maison la semaine précédente, et comme ils étaient crevés, on leur a dit, allez, laissez-le nous, et on vous le ramène dans une semaine, ce qui leur a fait des vacances. Donc, oui, la semaine où on s'en est occupé, mon épouse et moi, oui, c'est un boulot à mi-temps, chacun la moitié du temps, quoi.
Et oui, forcément.
On perd ça un peu de vue parce que ça fait longtemps, enfin, nos enfants ont 30 ans, donc ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé.
S'occuper des petits-enfants, c'est évidemment être tout le temps aux aguets et puis s'adapter aussi à leurs besoins, à leurs envies. Viviane, vous êtes toujours avec nous, Viviane Scofès-Maspetti?
Oui, et d'ailleurs, ça me fait plaisir.
Je remercie quand même Dimitri de nous avoir appelé, d'avoir partagé tout ça avec nous ce matin. Pardon, Viviane, excusez-moi.
Non, mais justement, je voulais parler à Dimitri et lui dire que...
Il vous
après
entend.
Après avoir écrit un livre sur les grands-mères, je suis en train d'écrire un livre sur les grands-pères. Donc, j'ai à nouveau interviewé des dizaines de grands-pères. Et donc, c'est pour lui dire que oui, on s'intéresse à eux et que les grands-pères et les grands-mères, c'est pas la même chose.
Ah oui? C'est pas la même chose, c'est-à-dire ?
C'est pas la même chose. Ils n'ont pas forcément les mêmes rôles. Je vois que Dimitri partage moitié-moitié. C'est tout à son honneur. C'est pas toujours comme ça. C'est quand même pas mal, surtout quand les petits-enfants sont petits-petits. Les grands-pères sont pas forcément à l'aise avec des bébés. Il y en a qui le sont parfaitement, mais il y en a, c'est moins. Mais par contre, quand les petits-enfants commencent à avoir 5-6 ans, ils font des activités avec eux. Enfin, il y a quand même une forme de partage des tâches.
Alors, c'est ce qui m'amène à m'adresser à vous, Régine Florin. Vous parlez, et vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs, de l'âge d'or des grands-parents. Mmh. Qu'est-ce que c'est ?
Entre nous, quand on en parle, on sourit tout le temps en disant oh, « c'est extraordinaire quand ils sont capables de monter seuls dans le siège auto, qu'ils sont propres, on n'a plus qu'à les attacher ». Et puis, vous savez, quand ils commencent à avoir 14-15 ans, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent chez les grands-parents ? On est les grands-parents d'ados. Personnellement, moi, je l'ai souvent été. Je vais avoir celui de 20 ans qui va venir pendant 8 jours. On n'a pas tout à fait le même genre d'activité avec des bouts de choux qui ont 9-10 ans qu'avec des adultes, ensuite des jeunes adultes qui ont 18-20 ans.
Mais vous savez, en tant que parent aussi, hein, c'est pas
bien
évident.
Sûr. Donc on apprend tout à fait à s'adapter. Puis,
et donc l'âge d'or, c'est quoi ? C'est entre 3 ans et oui. 11 ans ?
Oui, au milieu du collège. Celui de 11-12 ans qui est là, il est encore super ravi, la plage lui va encore. Ce qui est intéressant chez les grands-parents, ils s'adaptent bien. Par exemple, quand ils viennent, on vient avec un copain.
Ah oui ?
Alors,
c'est
ça
la bonne technique, ça.
Ouais, ça fait une super belle bande, tous ensemble, là, les copains, les copines, les trucs. En plus, des cousins-cousines, donc ça tourne autrement. Et puis, ils sont super aidants. Il n'y a pas de défi avec nous. Vous voyez, par exemple, nous, on anime à l'école des grands-parents européens, nous animons des cafés des grands-parents.
Oui.
Sur des sujets. On va avoir le prochain sujet au mois de septembre, c'est être grand-parent d'ado. Et on a également des jeunes mamans et des jeunes papas qui viennent. Tous ceux qui sont un peu disponibles viennent assister à tout ça. C'est vraiment toute génération. Eh bien, les gens sont très, très friands. On a à chaque fois une trentaine de participants. Même si on a eu l'amitié, on a eu les maisons de vacances, tous ces choses, tous les sujets. Parce qu'on se rend compte qu'en échangeant entre nous, on se refile ce qu'on appelle, en rigolant entre nous, les gaffes à pas faire.
Ah, c'est bien,
c'est
ça.
C'est très drôle.
Et avec les ados, il y a des gaffes à pas faire particulièrement ?
Ah ben oui, vous avez toujours des ados qui essayent de manipuler les grands-parents. Mais si je t'assure, maman, elle autorise que je prenne maintenant la tablette. Et puis mon téléphone, et puis ceci, et puis cela. Ouais. Et puis je peux partir tout seul là-bas, à l'autre bout, comme petite jeune fille, hein, très mignonnette, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Bah de toute façon, l'adolescence, c'est un passage compliqué pour eux, pour nous les parents aussi. Il faut qu'on s'intéresse à eux, ils ne demandent que ça finalement. Mais c'est vrai que pour suivre les ados, il faut bien souvent se mettre aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. C'est aussi le cas lorsque les grands-parents vivent loin de leurs petits-enfants. On va écouter Kylian Mbappé évoquer ses échanges avec sa grand-mère camerounaise dans un entretien avec Élise Lucet pour Envoyé spécial sur France 2.
Je suis très proche de mes grands-parents.
Quand on vous voit embrasser votre grand-mère, là, on se dit, là, il y a un truc.
Ma grand-mère, je la vois souvent, on parle tout le temps, elle m'écrit beaucoup.
C'est vrai ?
Oui,
textos ?
Oui, beaucoup de textos. Toutes ses peurs, elle les met en textos. Elle n'utilise pas bien le téléphone, mais on parle beaucoup. Mais de la voir là-bas, c'était quelque chose de, sensationnel parce que je sais ce que représente le Cameroun pour elle, pour mon grand-père aussi. Et qu'il soit là quand je reviens à l'âge adulte, c'était un moment important. Et je ne savais pas qu'ils allaient être là parce que voilà, ma grand-mère, elle avait des problèmes de santé. Je ne savais pas si elle allait pouvoir être là.
Et oui,
donc, elle était là et ça, c'était magnifique.
Viviane Kovas-Masfeti, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Vous avez évoqué tout à l'heure ces relations à distance entre grands-parents et petits-enfants. Elles se font quand même?
Elles se font et c'est impressionnant de voir comment elles peuvent être chaleureuses et proches. Moi, j'avoue que je suis restée bouche bée devant les relations que pouvaient tisser des grands-parents avec leurs petits-enfants habitant l'Australie. Ça m'a... ils se connaissent. Alors, les parents voient chaque semaine des photos. Voilà, les nouvelles technologies font qu'on peut rester proche en étant loin. D'ailleurs, en fait, qu'ils soient en Australie ou qu'ils soient dans une autre grande ville de France, n'est pas forcément une différence énorme au niveau de la proximité et de la quotidienneté. Parce qu'en fait, pour être dans le quotidien des petits-enfants, il faut habiter proche d'eux. Sinon, on ne va pas les chercher à l'école, on n'est pas là le mercredi. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans cette quotidienneté. Dès qu'il y a une différence, une distance géographique, ça se joue sur d'autres moyens de communication. Et je vois que les grands-parents se les ont appropriés. Le Covid a quand même fait un virage de ce côté-là, puisque, comme vous vous en souvenez, à un certain moment, les grands-parents n'étaient pas vaccinés, les petits-enfants non plus étaient porteurs.
C'était même des dangers, les petits-enfants.
Un moment difficile au moment du Covid, où si ça ne se faisait pas à distance,
ça
allait
pas se faire du tout, bien sûr.
Voilà.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Alors, on l'a vu, la grand-parentalité d'aujourd'hui n'est plus forcément celle d'hier. Nos aînés ont redéfini leur rôle et doivent également s'adapter à l'évolution des familles. On a un message de Laurence qui nous dit « J'aurais adoré avoir des petits-enfants, mais mes enfants ne souhaitent pas en avoir et je les comprends totalement, mais j'ai vraiment dû faire le deuil de ce rêve que j'avais de devenir grand-mère. J'ai dû trouver d'autres raisons de vivre, ma retraite et surtout donner tout l'amour que j'ai emmagasiné pour eux. On vous embrasse, Laurence. Merci de nous avoir écrit ce matin. Serge Guérin, aujourd'hui, les familles recomposées représentent 10% des ménages et 23% des familles sont monoparentales. Ça, j'imagine que c'est un défi supplémentaire pour les grands-parents.
Oui, bien sûr. Ils ont vu apparaître. Ça fait quand même deux générations où on divorce beaucoup. Donc, ça s'est généralisé d'une certaine manière. Ils ont vu aussi que majoritairement aujourd'hui, quand on fait des enfants, c'est hors mariage. Donc, tout ça a changé par rapport à leur jeunesse, par exemple. Mais ils l'ont vu. Et je dirais aussi que c'est amusant d'une certaine manière. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui divorcent le plus, c'est les plus âgés. Donc, du coup, vous voyez, donc tout ça change. Parce qu'on peut même avoir des grands-parents qui eux-mêmes se séparent.
Divorcent.
Ben voilà, donc tout ça crée ayant des enfants qui eux-mêmes se sont séparés ou des enfants qui ont fait différemment des enfants.
Donc ils ne font pas que subir, eux aussi parfois.
Ils réfléchissent, ils agissent, ils sont libres, mais simplement ils ont globalement, on trouvera toujours des exemples contraires, mais globalement les gens ont parfaitement compris la question du divorce. Donc ils sont pas, ils peuvent être tristes, mais ils sont pas choqués par ça, ils vont pas refuser je ne sais quoi. Ils vont même souvent garder le lien avec par exemple la mère, même si c'est même si le couple s'est séparé, ils ont leur fils bien sûr, mais ils ont la mère reste la mère des petits enfants par exemple. Et voilà. Et s'il y a une relation qui s'est construite depuis longtemps, elle va rester. Enfin, les gens sont pas nés, ça peut arriver, mais globalement les gens sont pas ils découvrent pas tiens on divorce. Non, ils sont au courant. Encore une fois, parfois ils le pratiquent eux-mêmes.
Ouais.
Et deuxièmement, dans leur famille, dans leurs proches, dans les enfants, et ainsi de suite. Et du coup, ils vont essayer le moins possible, voire même l'inverse, d'être encore plus présent. Ça dépend aussi à quel âge se fait le divorce. C'est pas pareil si les enfants ont 3 ans, si les petits-enfants ont 3 ans.
C'est
ou
ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà. Donc vraiment, tout ça, ça change aussi. Mais vraiment, de grâce, ne voyons pas les grands-parents comme étant des ringards complets qui n'auraient rien compris.
Mais pas
ils
du
sont
tout.
Parfaitement au
enfin,
courant
vous
de
voyez
ça.
Bien depuis le début
mais
de l'émission
bien sûr,
que c'est pas ce qu'on fait.
Exactement. Voilà.
Voilà.
Et donc, ils accompagnent et finalement, ils sont encore plus présents et sans doute qu'ils ont même une utilité encore plus forte, à la fois symbolique et matérielle, dans ces moments un petit peu compliqués.
N'empêche que vous faites bien la pub des grands-parents, hein, Serge Guérin. Moi, je vous trouve très, très enthousiaste.
Bazar de sort, dans quelle situation on serait s'ils n'étaient pas là?
Non, mais ça, c'est évident. Viviane Kovas-Masfeti, les nombreux témoignages que vous avez recueillis vous ont-ils permis d'identifier s'ils avaient ce rôle de balancier parfois entre leurs enfants et leurs ex-beaux-enfants, gendre, belle-fille?
Alors, c'est quand même assez compliqué. Où le divorce se passe pas trop mal, où ça se passe mal, et donc ça peut aller jusqu'à, si c'est leur fils qui divorce, ils aient beaucoup de mal à voir leurs petits-enfants. En tous les cas, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent bien que c'est pas eux qui divorcent, mais leurs enfants.
Ouais.
Ce qui veut dire respecter un peu le processus et ne pas s'y impliquer.
Bien sûr.
J'ai vu d'ailleurs, c'est pas du tout évident. Moi, j'ai vu des grand-mères dont qui estimaient que c'était leur fils qui avait tous les torts. J'ai vu des grand-mères qui restaient effectivement en contact avec une ex-belle-fille. D'ailleurs, si on veut voir les petits-enfants, c'est prudent, si je puis dire. Donc, ça n'est quand même pas une situation facile. Il y a d'un côté le divorce des grands-parents dont vous avez parlé, qui est leur vie et qui leur permet d'ailleurs d'accueillir de nouveaux beaux petits-enfants. Etc. Ça, c'est différent. Beaucoup de grands-parents n'ont pas eu leurs enfants ensemble, mais ont des petits-enfants, et ça peut être très joyeux.
Bien sûr.
Le divorce
avant
des parents.
Avant qu'on se quitte, parce qu'on
n'a
plus beaucoup de temps, Viviane, je me permets de vous couper parce que Régine Florin, je tiens à dire ce matin que l'école des grands-parents européens a créé Allô grands-parents. En deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, 01 45 44 34 93. On peut également écrire pendant les vacances egpe@wanadoo.fr.
C'est une ligne d'écoute.
Une ligne d'écoute qui est tenue lundi, mardi, jeudi, vendredi par des écoutants, écoutantes, qui ont toutes eu des fonctions importantes dans l'aide sociale à l'enfant, dans conseillère conjugale, bon, de très haut niveau, et qui vont écouter ces grands-parents qui... Par exemple, lors d'un divorce, brusquement, y garder des petits tous les mercredis, il y a un déménagement, la nouvelle compagne, et ben voilà, on voit plus nos petits-enfants.
C'est une ligne d'écoute pour les grands-parents qui ont besoin d'aide. Merci beaucoup, Régine Florin, d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver, l'école des grands-parents, sur le site egpe.org. Un grand merci à vous aussi, Serge Guérin. Je rappelle le titre de votre livre, « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» Viviane Covest-Masfetti, « Être grand-mère aujourd'hui » aux éditions Odile Jacob est disponible. Je profite de cette émission pour remercier au nom de tous les parents, les grands-parents qui cet été encore vont leur permettre de souffler un peu et offrir aux enfants des souvenirs impérissables. Je remercie plus particulièrement ma maman qui depuis la naissance de mes enfants est à mes côtés sans relâche. J'oublie pas mon papa qui remet son sourcil et sa casquette de prof quand mon aîné l'appelle en visio pour réviser ses contrôles de maths. Voilà les grands-parents, vous êtes précieux.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.